bien, c'est l'heure sur France Inter.
Oui,
c'est l'heure de la bande originale. Et
bonjour,
si je n'ai pas
Laetitia.
Nagui et que j'ai Monsieur Morin, c'est que Nagui n'est pas encore arrivé.
Mais on est tous là, sauf
si il est là, mais un petit retard.
Il est en train de parler avec le public.
Ça commence.
On répète.
Bah vous me prévenez dès que ça commence, hein.
Ouais. D'accord. Bah vous... bonne journée.
Ah voilà. Mais elle ressemble à Laetitia.
Mais non, c'est une doublure.
Ah bon, d'accord.
Non, non, ce n'est pas une doublure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est la bande originale.
Bravo.
Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoumoudani.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Daniel Moret.
Bravo.
Richard Ormac, et nos invités Marina Foïs et Laurent Lafitte.
Il est chaud.
Oui, il est chaud. Pour un très bon film, et je suis ravi de les accueillir. Papa ou maman 2. Ils ont bien réfléchi, en tout cas, pour trouver le titre de ce film. Et c'est un très bon film. Mais je ne suis pas sûr, Tom Villa, que vous ayez bien compris pourquoi ils sont là.
Ce sera nous.
Moi ?
Ouais.
Moi, j'ai pas compris.
Souvent, Tom, en fait.
Ah, mais détrompez-vous, Nagui. Mmh. Alors, comme disait François Hollande ou Bigard, je sais plus, mais entre deux conneries, je peux peut-être dire un truc intelligent des fois, tu vois.
Vas-y.
Hein ? Alors, moi, je vois deux raisons à votre venue, messieurs, dames, ce matin dans le studio. La promotion de Papa ou Maman 2. Et puis aussi, c'est bien que ça soit Marina qui soit venue avec Laurent et pas Roman Polanski. Sinon, ça aurait mis une sale ambiance. Voilà.
Pas forcément. Ça aurait été moins chiant. On s'en reparlera à la fin de l'émission.
Avec grand plaisir, à midi et demi. Marina, Laurent, soyez les bienvenus. C'est le nouveau couple le plus marrant de France depuis Patrick et Isabelle Balkany. Mais vous, on est ravis de vous recevoir. Vous revenez au cinéma donc dans Papa ou Maman 2. Bravo Nagui, voilà. À peine élu, déjà on fait de la lèche à François Fillon. Bravo, voilà, invité des comédiens pour
il
parler.
Il est déjà élu, attendez.
Non,
parce
mais
que
déjà
là, je suis
dans
promo,
son parti.
Je suis un peu déconnecté.
Non, non, déjà dans son parti.
J'ai
voilà.
Que...
Dans l'esprit de beaucoup de personnes, oui.
C'est ça. Non, Manuel Valls a démissionné.
Non,
Manuel Valls, c'est bon.
Dans son parti, mais voilà, il essaie de se placer. Nagui, on le connaît.
L'homme a des souhaits personnels.
Exactement. Et une fan. Enfin, bon, bref, on s'en fout, on enchaîne. Non, mais c'est vrai, Nagui, pourquoi pas Papa ou Papa ? Ou maman ou maman. Ou par exemple, papa a fécondé maman, mais c'est l'autre maman qui fera l'autre papa. Voilà, ça pourrait être bien. Moi, je déconne.
Mais nous, on est très clients de ça. On nous a dit qu'on faisait un film familial.
C'est un film familial. Alors, dans le premier film, vous galériez à vous débarrasser de vos enfants. Normal, c'est vrai que c'est la galère quand ils sont grands pour s'en débarrasser, à moins d'être restaurateur. Mais c'est vrai que les congélateurs sont jamais assez grands.
Non,
mais on le répétera jamais assez.
Non.
La méthode Courgeot, c'est 24 mois maximum. Après, c'est compliqué.
Faut pas casser la chaîne du froid.
Non, exactement. Et puis dans le deuxième film, là, vous galérez à vous débarrasser l'un de l'autre. Voilà le pitch. Donc, on retrouve la famille Leroy, qui, dans le 1, voulait divorcer et cherchait à se débarrasser donc de leurs enfants pour pas avoir la garde. Hein. Évidemment, pour nous, c'est une comédie. Pour Brad et Angelina, c'est un biopic. Et à la fin du 1, ils ont quand même remis le couvert, ce qui nous amène aux 2. Et ils sont bel et bien séparés, mais avec un nouveau bébé sur les bras, dont ils n'ont absolument rien à foutre. Alors, entre vous, moi, je vous le dis.
On va nuancer ça après, on vous laisse finir.
Non, mais j'ai vu le film. Je savais que c'était de la fiction, mais j'étais à deux doigts d'appeler la DAS quand même. Franchement, c'est scandaleux.
C'est vrai. Je dois reconnaître qu'il y a des scènes choquantes.
Ah ouais,
et la DAS n'existe pas.
La DAS
n'existe pas.
Non, ça mais moi j'ai écrit la chronique de 96.
Donc toujours, faites attention.
Non, voilà. Donc évidemment, 2 ans ont passé, tout va bien. On pourra même vous décerner la palme des divorcés de l'année. 2 maisons l'une en face de l'autre, 2 chiens identiques, Jean-Luc et Jean-Pierre, des dîners entre amis communs, jusqu'au moment où Marina vous présentez votre nouveau mec. Et forcément, ça passe pas. Tu m'étonnes, hein, il est gaulé, riche et il a la retraite à 35 ans, comme Nagui. Donc c'est vrai que quand nos ex se recasent, la base c'est qu'on veut que ça soit avec un mec moins bien que nous. Hein. On veut qu'elle nous regrette, hein, ou au moins plus moche. Et c'est vrai que plus moche que Laurent, c'est pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué.
J'ai plein de noms, je les dirai pas pour pas vexer Depardieu, mais c'est vrai que du coup, voilà, il en faut pas beaucoup pour que la guerre reprenne, plus triervelesque que jamais. Ça fait 2 films que vous envoyez des assiettes dans la gueule, et vous avez l'air d'adorer ça, et nous aussi. C'est vrai que c'est très très bien. On est parti, à mon avis, jusqu'en 2052 pour peut-être un papier mamie 12.
J'aimerais.
Où on les verra se courser en déambulateur, à se cracher leurs dentiers à la gueule. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez les gens qui se pourrissent la tronche, les parents indignes et les bébés abandonnés, papa et maman 2 est fait pour vous.
Et beaucoup de bonnes vannes.
La bande originale, Nagui.
Merci Tom Villa. Dans ce film, il y a évidemment Marina Foïs, Laurent Lafitte, mais il faut tout de suite citer Sarah Giraudeau et Jonathan Cohen, qui sont les deux, on va dire, les deux nouveaux amants ou amoureux de chacune et de chacun dans ce film. Il y a évidemment Anne Leny qui revient, Michel Villarmoz qui est juste, mais voilà.
Nicole Garcia.
Et en guest, spécial guest, Nicole Garcia qui joue votre maman, Marina, dans le film.
Et Judith Elzen.
Qui était là dans le... Ça devient une troupe, en fait. C'est-à-dire que vous avez reconstitué, pratiquement en acceptant de nouveaux acteurs et de nouveaux personnages, vous avez pratiquement reconstitué la même bande avec les enfants également. Dans cet épisode, on se retrouve... on est parti pour une série. On se retrouve...
Ça reste du cinoche.
Martin
Bourboulon, le réalisateur, est vraiment un réalisateur de cinéma et voulait faire un objet de cinéma. Souvent, l'aspect esthétique est un peu négligé dans certaines comédies populaires, et là, il était vraiment très, très, très pointilleux là-dessus.
Ouais, totalement.
C'est très léché.
C'est exactement... Je reviens sur l'enfant, vous n'étiez pas d'accord sur la maltraitance.
Ah, non, alors... parce que ce sont pas des... sinon ça en ferait des salopards si vous voulez volontairement faire du mal.
La petite qui traverse. Non, j'ai oui, pas mais... qu'ils font exprès.
Ah, bah oui, non, c'est pas des salopards.
La petite qui traverse seule la rue.
Bah oui, parce qu'ils l'ont eu. Ils l'ont eu à la fin du premier volet.
Ils l'ont eu par mégarde.
Voilà.
À l'issue d'une baston qui s'est terminée de manière divorce.
Sexuellement.
Voilà. Je suis tombée enceinte. Nous avons gardé cet enfant pour des raisons qui sont pas tout à fait claires. C'est juste que la réalité était tellement compliquée, on l'a pas tout à fait intégré au schéma familial. On l'aime, mais on l'oublie. Ça peut arriver.
Un peu partout. Dans des endroits pas forcément.
C'est comme un pack d'eau, quoi. Finalement, c'est un peu encombrant.
Ben oui, c'est vrai.
C'est comme un pack d'eau.
C'est
en moins utile.
C'est extrêmement drôle, mais surtout, vous avez réussi le challenge en vous mêlant d'ailleurs de l'écriture. Vous avez réussi le challenge de le faire plus drôle que le premier. Et ça, c'était pas évident. Le premier était déjà extrêmement efficace, mais ça a été l'un des moteurs. Vous avez dit, on y va que si on fait encore mieux et si on va encore plus loin.
Ouais, plus drôle, c'est difficile parce que drôle, c'est un résultat. Donc, on peut pas décider d'être
drôle.
Sur le moment,
on n'est pas sûr.
Mais en tout cas, dans l'idée, on avait absolument envie qu'il y ait des nouvelles choses à expérimenter, aller plus loin ou aller ailleurs, faire différent. S'il n'y avait pas le challenge de se renouveler un peu, je pense qu'on se serait fait chier, nous, d'abord. Donc on aurait
ennuyé le public.
Oui. Bah oui.
À quel point vous mêlez d'ailleurs de l'histoire, parce qu'il faut rappeler quand même que pour l'écriture du scénario, il y a Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, les célèbres du prénom, pièce et film qu'ils avaient écrit. Mais vous avez apporté à votre propre personnage ou à des scènes. Vous avez travaillé ensemble, autour de table, tous les quatre.
Oui, tous les cinq, avec Martin Bourboulon aussi, qui était là pour toutes les séances de réécriture avant le tournage. Mathieu et Alexandre, ils ont leur expertise, leur talent, c'est de savoir déjà inventer une histoire, la structurer, créer des surprises et faire avancer l'histoire en permanence. Ça, vraiment, moi, je sais pas si je sais faire ça. Et à l'intérieur de ça nous offre des fondations pour nous apporter notre folie, notre imaginaire.
Sur des situations précises, sur l'évolution des personnages.
Un peu les deux, les situations, les dialogues, les...
Mais en gros, on fait des séances de travail qui sont absolument bordéliques. Nous, on est complètement décomplexés et sans filtre. On propose tout et n'importe quoi. Il y a vraiment des choses qui sont pas filmables, qui sont pas intégrables dans l'histoire. On s'en fout, on les propose quand même.
Par exemple, ça peut être quoi, pas filmable et pas intégrable dans l'histoire? Dans votre folie à tous les deux. Non, mais allez plus loin, Marina.
Qui est racontable?
C'est ça. Marina est capable d'aller très très loin.
Oui, c'est pour ça que ça m'intéresse.
Non, mais par exemple, le bébé, nous, là, on l'oublie dans le jardin. Il fait froid, c'est pas très parentalement correct, mais c'est pas dangereux. Nous, on l'aurait volontiers oublié sur l'autoroute. Nous, on a toujours tendance à exagérer les dangers.
J'ai bien le volontiers.
Oui, et heureusement...
Parce que dans ta phrase, on l'aurait abandonné sur l'autoroute, ne suffit pas. Il faut rajouter un volontiers.
Parce que c'est notre état d'esprit.
Non, sans plaisir. Mais heureusement qu'on nous empêche à certains endroits, parce que peut-être qu'on irait trop loin, que l'empathie avec les personnages, du coup, serait cassée, et qu'on aurait j'aurais plus envie de rire avec eux. Donc c'est vraiment un équilibre ténu.
Bon, il y a une scène qui pour moi est déjà culte, mais on va attendre que le film sorte quand même.
Non, oui, non, elle est déjà culte.
Cette scène,
c'est un prescripteur de tendance.
Bah ouais. Non, mais c'est aussi c'est le repas avec Jonathan Cohen, la présentation ouais. en fait de l'amoureuse et de l'amoureux de chacun. Mmh. Là, ça y va, mais soit dans les vannes, soit dans simplement les regards, les comportements ou les situations, il y a des moments même oui, là, de silence et de gêne.
Ouais, là pour le coup, c'est vraiment l'écriture du réalisateur, puisque évidemment montage, c'est lui qui choisit de monter tel regard, de faire exister une réplique plus dans le regard de celui qui l'entend, qui écoute, que dans celui qui parle. Donc ça, c'est vraiment l'écriture de Martin et son intelligence de la situation.
Mais Bourboulon, il réussit bien à l'intérieur de cette histoire de comédie, de ce pitch, de l'efficacité de l'écriture, tout ça. Il arrive à raconter tout le temps l'histoire de ce couple. Et en fait, c'est je pense ça qui donne du relief à cette comédie, c'est qu'en fait c'est l'histoire de ce couple. On a envie, je crois, qu'ils se remettent ensemble. On les voit galérer, tellement se mentir à eux-mêmes, tellement loin de leurs émotions, tellement plein de mauvaise foi. C'est un ressort comique, mais ça raconte aussi une histoire dans laquelle n'importe qui a vécu plus de 2 mois avec quelqu'un peut se reconnaître.
Il 3 millions d'entrées pour le premier opus, ça veut bien dire quelque chose. C'est qu'à un moment, vous touchez à une thématique qui...
ça parle à tout le monde.
Au-delà de la comédie et comment on arrive à en rire, mais qui concerne tout le monde, où tout le monde peut se reconnaître assez facilement.
On a tous
finalement.
Un petit peu envie d'abandonner son bébé sur oui. un air de taux. Ouais.
Non, puis à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont peut-être reconnaître aussi des disputes qu'il peut y avoir à la famille, sans donner bah oui. des côtés extrêmes comme ça. Tu ne me montres pas du doigt, Marina.
Non, ça s'est passé comme Bouddha.
Ce que je
on ne pointe pas Bouddha.
On ne représente pas mec. On ne dessine pas la vie.
Tu voulais dire
c'est non, pour je ça voulais que c'est dire que... Et Patrick Cohen.
Parce qu'on représente
ouais.
Patrick Cohen.
Ah ouais, on peut les représenter.
Ils sont énormes.
Ce sont nos dieux vivants.
Ouais. Et mais ils ont cette taille-là, en vrai.
Je sais parce que je croise Patrick Cohen rue des Martyrs tous les dimanches matins.
C'est intéressant. Je pense qu'au niveau national, ça va faire vibrer.
Donc tu voulais dire
non, je voulais dire que les enfants, ils ont beaucoup aimé le 1 parce que je pense qu'il y a un truc. Nous, on dit toujours à nos enfants, vis-à-vis de nos enfants, on a toujours raison, quoi qu'on fasse. Quand on gueule, c'est pour des bonnes raisons. Nos règles sont toujours les bonnes. On a raison et c'est comme ça. Et c'est l'occasion pour les gosses de voir que les parents aussi se trompent, les parents aussi dérapent et que
les parents sont des enfants quoi. Oui. Là ouais. quand même.
Je sais même pas comment d'ailleurs ouais. on peut résumer ce film parce qu'il faut pas tout dévoiler. Il y a quelques rebondissements et on va pas le divulgâcher en racontant des choses qui se passeraient, mais on peut au moins donner le point de départ de dire donc que chacun a reconstitué un couple de son côté et vont naître de là des jalousies, ce qu'a dit Tom. Chacun va regarder le concurrent entre guillemets d'en face au sens propre du terme en se demandant qu'est-ce qu'il a de plus ou qu'est-ce qu'il a de moins et les enfants vont se poser la question de savoir est-ce que vraiment ils sont pas faits l'un pour l'autre et puis après va s'en oui. suivre une
et puis quand le film commence et c'est quand même quelque chose qui illustre bien l'esprit malade de ces deux personnages, c'est qu'ils sont quand même dans une garde alternée totalement absurde. Ils habitent dans deux maisons face à face, la rue qui sépare les deux maisons ça devient en fait un couloir ou un vestibule parce qu'ils passent d'une chambre à l'autre comme s'ils vivaient encore ensemble. Pour les enfants,
les deux maisons se ressemblent comme deux
gouttes. Mais oui, c'est la même déco, le même chien.
Ils ont mis au point un système de garde alternée qui pour eux est absolument logique et qui d'ailleurs est dit Laurent qui s'est mis en place tout seul. C'est-à-dire que les troisièmes mercredis des mois en R, c'est chez papa. Les mois en breu, les débuts de semaine seront chez maman. Mais c'est leur évidence à eux qui est quand même pathologique.
Voilà. C'est tellement barré, comme de se mettre en costume trois pièces pour aller à un repas pour se présenter.
c'est ça. Avec une chemise bleue, avec une chemise bleu ciel.
Et faire le tour du patelin pour pas que les enfants voient que vous allez dîner.
Mais oui, mais c'est toujours pour bien faire. Mais ouais. souvent dans les familles, on est plein de bonnes intentions et c'est catastrophique.
Et d'ailleurs, c'est votre personnage qui est le plus jaloux, en fait, quand on pose cette notion de rivalité avec les couples. En tout cas, elle est moins exprimée du côté de Marina par rapport à Sarah.
Parce que Sarah je pense Giraudot, que le personnage de Sarah représente moins une menace pour Marina ouais. que le personnage de Jonathan. C'est pour ça qu'elle est soi-disant moins jalouse.
Jonathan Cohen, Sarah étant Sarah Giraudot, ouais. et je le redis, Judith Elzain, Michael Abitboul, on va citer les enfants.
Et Nicole Garcia.
Ouais. Oui, et Anne Leny, et Michel Villermoz, les enfants que je n'ai pas cités, Alexandre Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier, Louise et Alice Seine, ça c'est pour la petite, parce qu'il ouais. fallait une
alternance. Il en fallait deux.
Il en fallait deux.
Comme on voulait vraiment les oublier.
Ouais. Il y a deux chiens et deux jumelles.
Marina Foïs, bien sûr, et Laurent Lafitte, qui sont nos invités pour ce très bon film qui sort demain. Papa ou Maman 2, et vos oreilles ont sifflé, et Leïla, oui, quand on vous a dit que Marina et Laurent venaient aujourd'hui.
Et oui, immédiatement, Marina, je pense à vous et je vous vois dans un très beau film sorti récemment. C'est Irréprochable, de Sébastien Marnier, où vous jouez un personnage très inquiétant. Extrait.
Constance, je suis votre avocate, mais je ne sais pas comment je vais vous défendre. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail, donc voilà, ça se plaide, le harcèlement. Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement. Vous avez appelé votre ancien patron 1985 fois et vous avez dormi à plusieurs reprises sur son palier, il y a des témoins.
Un personnage très inquiétant, un film absolument génial, une sorte de thriller d'un genre un petit peu nouveau. À vos côtés, Jérémy El Khaïm, Joséphine Japy, il y a Benjamin Biolay aussi qui fait une petite apparition. Je me dis, quand je vous vois dans ce film-là, que vous avez une sorte de facilité ou à incarner des personnages très inquiétants. Il y a quelque chose de chez vous qui est assez évident.
Oui, c'est...
Non, parce qu'on vous connaît sur
termine,
ce côté souriant. Non, mais voilà, votre dimension comique. Mais je vous trouve très, très puissante dans ce genre de rôle. C'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement, vous recherchez ou c'est venu comme ça et vous l'avez accepté?
Oui, oui, non, moi j'aime bien les zones troubles. Ouais. Comme spectatrice, j'aime... D'abord, j'aime tous les genres de films. Mais voilà, les parts d'ombre sont toujours intéressantes.
Ouais. Et puis, c'est un rôle très physique, en plus.
Oui.
Vous avez souvent un rapport au corps dans vos films, je trouve, développé. Il y a sur scène, au théâtre aussi, on en parlera tout à l'heure, il y a quelque chose aussi de très évident sur votre implication physique.
Bah, jouer, c'est incarner. Enfin, là, j'enfonce une porte ouverte.
Mais pas pour tout le monde
vous,
de la même manière.
Vous, c'est sans limite, ouais.
Mais Luc Bondy, avec qui j'ai travaillé, ouais, que j'adorais... Il disait beaucoup, il n'était pas français, il était de partout un peu. Et il disait, il s'énervait, il était d'une mauvaise foi atroce, c'était extrêmement drôle. Il disait, les acteurs français, ils m'énervent, ils jouent de là à là. Ce qui n'est pas radiophonique.
Il joue avec
la tête.
Au menton, ouais,
c'est très serré, c'est très cérébral tout ça. C'est vrai que le théâtre allemand, par exemple, les acteurs, ils jouent beaucoup. Enfin, ce serait absurde de ne pas se servir du corps qui nous trahit ou nous aide selon les situations. Mais enfin, c'est un outil, ça raconte. On raconte beaucoup de choses par le corps, le comportement, le ressenti, enfin... Et moi, je sais que je peux m'accrocher pour jouer à des sensations très concrètes, juste avoir chaud, enfin, je veux dire, le très concret nourrit... parce qu'on peut pas restituer la complexité du cerveau humain, on peut pas tout prendre en charge quand on joue une scène. En revanche, le corps, il est là, il ressent forcément... Alors, je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Si, si,
c'est clair, d'autant plus que j'ai l'impression, quand je vous vois jouer, que vous pourriez vous passer de dialogue. Ce qui est quand même, pour moi, le tour de force absolu. C'est-à-dire que les mots viendraient compléter quelque chose que le corps ne pourrait pas dire. Et dans vos attitudes, je trouve que le corps dit déjà beaucoup.
J'adorerais ne pas me raccrocher au texte pour raconter quelque chose. Ne parler que quand c'est nécessaire. J'y arrive pas toujours.
Ouais, mais je trouve qu'en tout cas dans Irréprochable c'est réussi. Je vous offre le DVD, il vient de sortir, Laurent Lafitte.
Je l'ai déjà, mais je le prends.
Et ben voilà,
on va le retrouver sur internet, c'est moche, il va le revendre. C'est dégoûtant.
Non, non.
Et quand je pense à vous, Laurent Lafitte, je pense à un comédien qui vous a donné envie de brûler les planches. Lui, c'est Gérard de Sarthe dans Hamlet, mis en scène par Chéreau.
J'ai aussi entendu parler, et bien trop, de vos barbouillages. Dieu vous a donné un visage. Et vous vous en faites un autre. Vous vous tortillez, vous trottinez, vous minaudez, vous donnez des surnoms à ce que Dieu a créé. Vous êtes impudique, sous des airs d'innocence.
Hamlet, donc, Gérard de Sarthe dans le rôle titre, qui est devenu, à mon sens, la référence pour ce rôle-là. Il a un peu fait oublier beaucoup de ses prédécesseurs. Pourquoi Gérard de Sarthe vous a autant inspiré dans votre envie d'être comédien?
C'est un ensemble, c'est de Sarthe, c'est tout le reste de la distribution, c'est le décor, c'est la mise en scène de Chéreau, ça a été un choc artistique en fait. Moi j'étais habitué à un théâtre plus bourgeois, le théâtre que je voyais à la télé, et puis à 20 ans je découvre ce spectacle et ça m'ouvre des horizons que je ne soupçonnais pas.
Vous le voyez à Nanterre, vous le voyez à Avignon?
Je le vois à la reprise à la Villette.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, là, attends, là, il y a quelque chose de d'abyssal qui s'ouvre. Il faut explorer ça, mais il faut tout reprendre à zéro, quoi. Et à cette époque-là, je jouais une pièce de boulevard avec Croque-Monsieur, avec Marthe Villalonga. Et j'ai décidé en parallèle de préparer le concours du Conservatoire National parce que pour moi, c'était le seul endroit où je pouvais atteindre ce répertoire-là. Et j'ai été reçu et j'ai commencé à essayer de réorienter un peu la direction que j'avais prise.
Il y a un truc qui se passe en plus, pour en venir à Papa Maman 2, c'est la parfaite complicité. On sent qu'entre vous, au-delà d'être deux comédiens extrêmement performants et efficaces, il y a une vraie complicité même dans la vie. Là, tout à l'heure, quand on était en train de parler... Et d'oublier que l'antenne commençait d'ailleurs.
On était là,
mais justement, on était tellement bien. On était tellement bien. On vous sent presque amis dans la vie. Alors, je sais pas si c'est le cas, et c'est même pas, ça ne nous regarde pas. Mais
ce coup. Serait bien non,
mais c'est la question.
La question
de la suite par rapport à un premier. Est-ce que vous êtes posé cette question d'accepter ou pas le papa ou maman 2? Est-ce que vous vouliez être sûr que ce soit forcément l'autre, l'un avec l'autre,
ah bah oui.
Ainsi de suite.
Ah bah oui, et avec Bourboulon, on l'aurait pas fait sans l'un. Ah bah oui, c'est un truc. On n'est pas seulement un couple, on est un trouple avec le réalisateur. Je pense que il y a une vérité qui se trouve à tous les trois. Après, nous dans la vie, on échange vraiment sur les films qu'on voit, sur les films qu'on va faire, sur nos projets. On partage plein de choses sur notre métier, donc évidemment.
C'est mieux quand on s'entend de jouer avec un comédien
pas
ou
forcément
ou juste
au résultat. Au résultat, ça peut être très bien. Enfin, on les connaît, les histoires d'acteurs qui se haïssaient, qui sont prodigieux, tout ça. Il se trouve que nous, on rit avant les prises, on rit pendant, enfin moi surtout, on rit après. Donc il y a une espèce de continuité. Et en plus, on ne fait pas que rire ensemble. Je pense que en vrai, on est amis depuis très longtemps, puisque c'était juste la question que vous aviez envie de poser, Nagui, donc allons-y. On est très amis depuis longtemps, et une amitié s'est faite de plein de choses, de choses très légères, et pas que. Donc ça fait des années qu'on cohabite.
Il y a eu un petit moment quand même de réflexion sur le Papa Maman 2. On y va,
oui.
On y va
ah
pas.
Bah oui, ouais. Ouais, bien
et
sûr.
C'est lié à quoi? Au scénar? C'est lié au travail? Parce que
bien entendu, l'histoire de pognon, Nagui.
Le problème de réunion de travail, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément le temps dans tous vos projets aussi de vous mettre autour d'une table en disant on va travailler et on verra si on fait ou si on ne fait pas. Donc ben j'imagine que le travail est parti du moment où vous avez décidé de le faire.
Non, encore, on a commencé à travailler sans être complètement sûr qu'on allait obtenir une version qui allait tous nous satisfaire, qu'on allait nous avoir envie de jouer, que Martin aurait envie de filmer. Donc on a décidé de travailler pour rendre le tournage possible. Mais c'est vrai que non, c'était pas gagné au départ. C'était pas gagné du tout parce qu'on voulait faire un bon film. Déjà, le 2, on peut le voir sans avoir vu le 1. Je pense que c'était important.
Absolument,
que ce soit un bon film en soi. Les scénaristes disent on voulait pas faire un numéro 2, on voulait faire une suite.
Il y a même la petite explication du bébé faite par le juge où on comprend.
Ah, oui,
parce qu'on peut se poser la question de pourquoi y a-t-il un nouveau-né alors qu'ils
sont divorcés. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais ça, vraiment, le film, il existe vraiment indépendamment du 1.
Et il y a même déjà les prémices d'un 3, soyons clairs.
Alors, on n'y a pas du tout pensé, ça.
Elles sont où, les prémices du 3?
À la fin du 2.
Il paraît que je vois ce film. Vous en parlez super bien, ça me donne envie de le voir.
C'est demain.
J'irai.
Voilà,
il faut y aller. Allo, demain matin. C'est ok. J'irai.
Pas la peine d'avoir vu le 1 en plus.
C'est vrai. Voici l'humeur de Frédéric Tigriste.
Bravo.
Bonjour mesdames, bonjour Marina Foïs, bonjour Laurent Lafitte de la Comédie Française. Oui, je sais, ça fait un peu ronflant, mais on a reçu un coup de fil d'Éric Ruff, le directeur de la Comédie Française, qui nous a dit « Écoutez, je suis très heureux que Laurent s'épanouisse dans sa carrière cinéma, c'est pas la question, mais si vous pouviez dire assez souvent que Laurent vienne chez nous, histoire qu'on vende des places sur le mois de décembre, ça serait sympa. »
Michel Villermoz aussi.
Voilà, donc voilà. On est ravis de vous accueillir dans la bande originale présentée par Nagui de France Télévisions. Oui, Delphine Ernotte a appelé, elle a dit qu'elle était ravie que Nagui s'éclate à la radio, mais que si on pouvait rappeler de temps en temps qu'il bosse à France Télévisions afin qu'on booste les audimètres de la grille de journée, ça serait sympa.
Ça alors, marche pour le JT aussi, parce que je prends aussi.
Oui, voilà, voilà, voilà. Alors, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas dit Marina Foïs des Robins des Bois. Ouais. Et bien, avant l'émission, l'attaché de presse de Marina est venu me voir en me disant « Écoute, Marina, elle en a un peu marre des pseudo-comiques qui essaient de la faire marrer pendant les émissions de promo. Donc, ce qui serait bien, donc là, j'ai dit quoi ? Que je dise qu'elle a fait partie des Robins des Bois ? Non, que tu fermes ta gueule. Donc, voilà, voilà.
Donc, vous êtes ici. Bah, les Robins des Bois, c'est une casserole, disons la vérité. J'ai ouais. dit la française, ben voilà.
Vous êtes ici pour nous présenter non, Papa non. ou Maman 2, un film qui ose dire que l'on n'est pas obligé d'être des parents exemplaires quand on a des gosses. Voilà, on a le droit d'être adulte et de ne pas être mature. Parce que quoi qu'on en dise, les enfants, c'est chiant. C'est chiant. Il y en a dans cette salle.
Oh, vas-y, je t'en prie.
Si vous êtes chiant, si vous êtes chiant, vos parents ne vous voulez pas. Si vous êtes une erreur. Non, mais c'est vrai. Les enfants, c'est une tumeur à qui on a donné un nom, qu'on nourrit et qui ne sait pas se moucher. Voilà. Moi, j'en ai deux à la maison. Ma vie est une publicité vivante pour votre film. Dernièrement, ma femme, elle m'a accusé de ne pas passer de temps avec eux. Alors, je lui ai dit, ok, ça peut te faire plaisir. C'est pas que j'en avais envie. Hein. Ah non. C'est que quand elle commence à me faire des reproches, au bout d'un moment, on dirait François Fillon qui parle du bilan de François Hollande. C'est long, mais c'est long. Donc, je suis allé voir mon petit Noé.
Ou c'est Lubin.
Enfin, merde, il s'appelle comment ouais. Je suis allé voir mon fils dans sa chambre et je lui ai demandé, toi, comment ça se passe, la grande section? Là, il m'a répondu qu'il était en CE1. Mais le temps passe à une de ses vitesses. Et comment il va, ton petit copain Rémi? C'est le petit noir qui a une tête à faire des pubs pour Action contre la faim. Oh, et là, il a déménagé, ses parents ont divorcé.
Ah bon?
Et ton autre copain Louis, là, pareil, il en garde alterné. Trois quarts des parents, des copains de mon fils dans sa classe ont divorcé ou sont en cours de séparation. Et c'est dingue. Et moi, ça m'a fait flipper. Mais c'est vrai, ce que je dis est vrai. Parce qu'ils sont chiants. Parce que quand ses copains se sont mis au Pokémon, il a voulu des Pokémon. Quand ils se sont mis au Yo-Kai Watch, il a voulu des Yo-Kai Watch. Donc là, maintenant que ses potes sont tous des enfants de divorcés, il va me foutre la pression pour qu'on sépare sa mère et moi. Et moi, hors de question que j'y divorce. Hors de question. Ça n'a absolument rien à voir avec l'amour.
Ouais, ça m'étonne.
Ah non. Attends, non, mais pour moi,
l'amour, c'est pas être à la mode, quoi.
Mais non, mais c'est très surfait, de toute façon. Pour moi, l'amour, c'est comme la moutarde quand je mange une entrecôte. S'il y en a, c'est mieux. S'il y en a pas, ça fera l'enfer quand même. Hein. Non, moi, je suis pas un grand fan du divorce parce que je sais que statistiquement, il est fort improbable que je retrouve une femme qui accepte d'avoir des rapports sexuels réguliers et gratuits avec elle. C'est évident. Au niveau des probabilités, je pars perdant. Hein, donc pas de divorce pour moi. Par contre, pour sa mère, aïe, est-ce que ça fait 19 ans qu'elle est avec moi juste par culpabilité judéo-chrétienne. Hein. Je sais bien que je suis une sorte de combat social qu'elle mène depuis des années et qu'elle perd. Hein. Mais si son fils adoré lui fait comprendre qu'elle serait plus heureuse sans moi, là, je suis pas dans la merde. Ah oui, alors parce que en plus le divorce quand t'es pas fan des enfants, c'est la pire des situations. Parce qu'une semaine sur deux, t'es vraiment obligé de t'occuper d'eux. Au moins, à moins de refaire ta vie très vite et de déléguer sur une belle-mère ou un beau-père, c'est toi qui dois gérer le quotidien, les devoirs, les repas, les bains, les activités extrascolaires. Tu dois être un vrai papa. Alors que marié, t'es dans un flou juridique. Tu vois, où tu peux faire genre que là de temps en temps, tu vois. Tu pousses une gueulante, il parle pas comme ça ta mère. Voilà, mais la vérité c'est que tu pourrais te prendre la foudre sur le coin de la tronche, ça changerait pas vraiment la vie de tes enfants. Alors que divorcer, faudrait vraiment que j'assume. Et finalement, je crois que c'est ça la morale de votre film. Enfin, disons plutôt que c'est celle qui m'arrange. Quand un couple dit « on se sépare pas à cause des enfants », c'est pas qu'ils veulent protéger les enfants, c'est surtout qu'ils veulent se protéger des enfants.
Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Il n'y a pas longtemps, une de mes filles m'a dit « Quand est-ce que vous vous séparez avec maman ?» Je trouvais ça d'une méchanceté sans nom. Non, je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi
Il paraît que c'est maman qui a soufflé la question.
Pas du tout. Elle m'a dit « Mais comme ça, j'aurai un portable. »
Ah oui.
Parce que
on compense, on culpabilise.
Non, mais pour rester en contact avec papa ou avec maman, les enfants les plus petits ont
elle
des portables.
Elle veut un iPhone.
C'est la période des fêtes. D'ailleurs, Marina Foïs, pour en revenir à ce qu'a vient de dire Frédéric Sigrist, est-ce qu'il y a une forme d'exutoire pour vous, maman, de jouer cette mère dans Papa ou Maman 2?
Ah bah oui, absolument. Nous, on a le droit de faire à l'écran tout ce qu'on n'a pas le droit ou pas envie de faire dans la vie. C'est
ça la magie du cinéma et d'être comédienne.
En même temps, j'imagine qu'en tant que maman, Marina, ça doit être pas mal, en fait. Si vous, ouais.
Oui, mais moi j'aime bien au cinéma, j'aime tuer, j'aime abandonner, j'aime sadiser, j'aime dégueulasser, j'aime et j'aime l'inverse aussi, j'aime
Francis
aimer, j'aime
Saul
tout ça.
Aussi, mais il n'avait pas de réalisateur qui le suivait.
Voilà, c'est la chance que
en
nous...
En fait, vous aimez tout faire. C'est ça, ouais. c'est ça qui est dingue. Et c'était pour en revenir aux Robins, et moi ça reste un très très bon souvenir.
Les Robins, c'est une blague.
C'est que vous étiez capable de tout, c'est-à-dire aussi bien de jouer dans l'émotion, quitte à le parodier, mais enfin pour le parodier l'émotion, il faut la jouer, il faut la feindre. Les films suédois ou les cascades ou la nudité ou les scènes d'amour, tout.
J'étais déjà à poil dans les Robins des Bois. Parce que au cinéma, je suis très souvent à poil. Ah oui, dans les Robins.
Ah bah oui, oui, si, si.
D'accord, donc c'est un atavisme personnel. Ok.
Okay. On va évoquer quelques années de votre carrière, quelques années qu'on a essayé de rejoindre en commun comme ça entre vous, Marina, et vous, Laurent, avec de la musique que vous écoutiez, par exemple, Marina Foïs, au moment de sa naissance. Peut-être pas, peut-être que c'est ce qu'écoutaient les parents, je ne sais pas. Lucio Dalla. À quel moment Lucio Dalla débarque dans votre vie ? C'est en famille ? C'est à la maison ? C'est vous qui avez choisi ? C'est comment ?
Je sais pas, c'est comme s'il avait été toujours là, mais moi j'ai passé beaucoup de temps en Italie, mon père était italien, j'ai passé, c'est pour le coup c'est vraiment un truc culturel, ouais.
Ça fait partie de la BO de votre vie, donc.
Il me semble, ouais.
Ouais, ouais. Donc vous avez créé The Royal Imperial Green Rabbit Company. Ça faisait classe comme nom, mais trop compliqué pour Dominique Farrugia qui a ramené ça donc aux Robins des Bois, puisque le premier spectacle était donc une parodie des Robins. Vous revoyez d'ailleurs Dominique de temps
en
temps.
Enfin, on est en contact tout le temps avec Dominique, oui, oui, oui. Ouais.
Ça reste un proche. Et quand vous entendez, puisque tout est né aussi autour de comédie, de Canal et ainsi de suite, vous sentez encore concerné par la télévision ou du moins ce qui se passe à Canal ou pas du tout ?
Là, c'est une très vaste question. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, je sais d'où je viens. Je sais d'où je suis née. Je sais ce que je dois à Dominique. Je sais ce que je dois au Robin des Bois. J'ai aucun problème avec la reconnaissance, ni avec l'histoire. Tout ça, ils sont tous là. Canal Plus, ben oui, je que vous dire. J'étais infiniment triste à la mort d'Alain de Greff. Je pense que ce n'est pas rien de commencer une carrière quand arrive la notoriété, quand arrive le pognon, encadré par les Scure et de Greff, qui étaient des gens engagés, politiquement engagés, des vrais patrons, plein de culture, plein de curiosité, pas que plein de pognon et de pouvoir. Ils utilisaient le pouvoir et l'argent exactement au bon endroit. Je pense, je souhaite à mes enfants, quoi qu'ils fassent, de commencer leur vie professionnelle et leur vie d'homme libre, encadrés par des gens comme ça. Voilà, c'est ça mon rapport à Canal. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est Canal. Je n'y suis plus, quoi.
Mais eux non plus.
Dans ces années 96, Laurent Lafitte, vous écoutiez Bernard Herrmann.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est la musique. C'est la compositeur. C'est la BO de la mort aux trousses.
Ouais. Oui, oui, absolument. J'étais très musique de film à l'époque, notamment Herrmann. Herrmann, Delerue, Williams. Ouais, j'écoutais beaucoup ça. Mm.
C'est-à-dire que ça vous permet, après avoir vu un film, d'avoir à nouveau des images en écoutant la musique ou
non, parfois
vous arrivez à sortir
musiques,
la musique toute seule.
Non, il y a certaines musiques que j'ai découvertes avant de voir les films. Et puis moi, j'adore les orchestrations, j'adore les grands orchestres, et j'adore analyser les lignes de chaque instrument, de voir comment elles s'éloignent de la mélodie, comment elles la rejoignent, comment elles frottent, comment. Et puis.
Et vous êtes capable de sortir un instrument de ce mix-là, de ces arrangements-là.
Ben, parfois, d'écouter que les violons. À chaque écoute, voilà, chaque écoute, j'écoute une ligne, un instrument, et c'est fascinant parce que parfois on entend tout le génie de l'orchestration. Et j'ai découvert ce plaisir.
C'est un vrai exercice de concentration, ça.
Oui, mais c'est musicalement, c'est extraordinaire. Et à l'époque, j'ai découvert ça avec notamment avec les musiques de films ou avec le travail que Georges Garvarentz a fait avec Aznavour, ou, voilà, ce genre d'orchestration.
Vous avez, puisqu'on parle de Papa ou Maman 2, vous avez travaillé le concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Si j'en parle, c'est parce que c'est pour vous un moment clé dans le regard entre vous et votre papa.
Oui, c'est vrai.
Vous nous racontez ?
Non, non, mais c'est très intime. Non, non, mais c'est oui, oui, c'est oui, oui, c'était quelque chose d'important pour mon père. J'ai senti là que quand j'ai été reçu, j'ai senti que c'était que je l'avais un peu impressionné, et c'était la première fois. Donc il m'a donné un billet de 500 francs.
qui l'a brûlé à moitié.
Mais qui valait, qui m'a apporté beaucoup moins de plaisir que la lumière d'admiration que j'ai vue dans ses yeux.
Joli ça. En 2007-2008, Marina, vous écoutez Joey Star.
Avec ma gueule. Avec ma gueule de métal. Un pistolet qui s'est bastelé. À qui on a pris tout volé. Si peu de lait, j'ai pris des branlés. Un père déserteur. Au point de respirer qu'on en fait. Il y a du bonheur.
Non, mais j'adore, c'est ma gueule de métal.
Ouais, c'est ma gueule de métal revisité par.
Ah oui, c'est Moustaki par Joey Star.
La musique a quel rôle dans votre vie ? Marina, elle est présente. Le matin, vous vous réveillez, vous mettez tout de suite de la musique. Est-ce que vous isolez avec un casque ?
Pas du tout. J'ai une culture musicale déplorable. Elle fait très peu partie de ma vie, à part dans les films, dans les pièces de théâtre, quand elle est support d'une émotion, d'une histoire, je la comprends, elle me parvient. Sinon, je suis assez handicapée. En revanche, moi, c'est les voix qui me parviennent et l'émotion que transportent les voix. Parce que l'histoire que
mais
ça
par
me
exemple,
raconte.
Joey, vous l'avez découvert.
Mais vous voyez, quand il parle de musique, il y a une culture, il y a un savoir que j'ai absolument pas. Je suis une vulgaire consommatrice ignare de musique. Voilà.
Non mais vulgaire n'est pas un
c'est
gros
pas
mot.
Vulgaire, c'est
non,
pas
c'est,
vulgaire.
C'est, ouais, c'est la foule, ouais, c'est ça. C'est,
non mais
c'est la masse.
Oui. C'est con, mais j'ai un rapport plus intime à la photo. Je sais pas comment vous dire. La musique, c'est quelque chose.
Et pourtant, il y a quelques émotions qui peuvent arriver d'une musique. Il y a des chansons qui peuvent vous faire pleurer, comme une photo peut vous émouvoir.
Bien sûr, oui. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose vers quoi j'y vais naturellement. Et encore une fois, il me manque. Et puis moi je suis née dans une famille bizarre, une histoire que je ne raconterai pas, qui n'a pas grand intérêt, mais la musique a été interdite chez ma grand-mère. C'est pas rien.
Ah oui ?
Oui.
C'est spécial ça.
Oui, parce qu'il s'était passé une tragédie à la salle Pleyel, je vous jure que c'est vrai. La tragédie familiale a commencé salle Pleyel. Et donc la solution à ça a été d'éradiquer la musique dans la maison. Ma mère et ses frères et sœurs avaient l'interdiction d'écouter de la musique.
Pour ne plus revivre cette tragédie
familiale.
Voilà,
ce qui est absurde en vrai. Hein. Mais a été dingue ma grand-mère.
Pour en revenir à des choses familiales, c'est l'année 2007, c'est l'année de la naissance de votre petit garçon qui 2008 peut-être.
2008.
Enfin, peu importe. Enfin, dans
vous
cette période-là.
Non, 2008.
C'est quand même
le
pas
deuxième,
important,
oui.
Pour lui.
Hein. Non.
Celui qui trouve la bonne date le garde. Alors, concentrez-vous bien.
Attention, bienvenue à notre nouveau jeu, la juste date. On sait, on a déjà beaucoup parlé avec des comédiennes ici autour de ce micro, que l'arrivée d'un enfant ou plusieurs enfants dans une famille et dans une carrière surtout de comédienne change beaucoup de choses parce que on se sent moins disponible, on est partagé entre son métier et son rôle de maman. Vous êtes posé des questions ou
non,
ça a été très simple à gérer ?
Ce serait pathétique que l'arrivée d'un enfant ne change rien. Faudrait avoir vraiment un manque de cœur. Non, mais moi, j'ai.
Surtout
vous savez
pour le
quoi
sommeil, quoi. Le sommeil, déjà.
Ils ont toujours dormi. C'est vrai.
La façon dont vous dites ça, on a l'impression que c'est de gré ou de force.
Ou pour le regard du réalisateur aussi, qui ne va plus spécialement vous proposer des rôles parce qu'il va plus voir. Non, ça peut arriver, non ?
Oh non. Oh bah. Oh non, je crois pas.
D'accord.
Je veux dire, tout ce qui. En gros, je pense que tout ce qui est à vivre dans la vie nourrit le travail et je veux dire tout est bon à prendre. Et puis quand on est acteur, on est suffisamment malin, pervers, intéressé pour que tout serve. Mais c'est pas pour ça qu'on fait un enfant. Enfin, après c'est la vie. On fait des.
Je suis d'accord, mais par contre, partir sur un tournage, c'est aussi soit emmener ses enfants avec soi sur le tournage, soit les confier
au papa
ou à une nounou et ne plus être présente. Donc il peut y avoir des questions.
Toutes les femmes travaillent.
Oui, mais elles travaillent dans la même ville. Dans la même ville, on peut tourner à l'étranger, on peut tourner en Belgique ou.
Oui, mais.
Loin
oui,
de
oui, mais
foyer.
Je pense pas que travail et maternité soient incompatibles. Hein.
Non, ça a fait ses preuves. A priori, depuis 2000 ans, on a réussi à concilier les trucs et
on s'en sort pas trop mal. Vous écoutez Laurent Lafitte dans ces années 2008, Little
All
Jimmy Scott.
The way.
Ah oui.
C'est vrai. Taller.
C'est pour être une BO ça aussi.
Oui, tout pour être une BO. Oui, Jimmy Scott, oui, j'ai découvert Cet homme, que je pensais être une femme d'ailleurs au départ, la première fois que j'ai entendu sa voix, il a une voix extraordinaire. Ce tout petit homme qui n'a jamais mué, qui a à peine grandi, qui a eu une carrière de chanteur et puis qui d'un coup est tombé dans l'oubli, s'est retrouvé même portier dans un hôtel new-yorkais. Et c'est là qu'il a été reconnu par quelqu'un qui a décidé de le relancer. Il s'est mis à enregistrer de nouveaux albums avec la même voix, alors qu'il avait plus de 60 ans, je crois. Il est mort il n'y a pas très longtemps et sa voix est chargée de tout ça, de toute cette singularité.
Autant l'histoire que sa voix qui vous touche.
Ouais. Oui, c'est un ensemble. Mais souvent, les grands artistes, c'est souvent ça. Hein. Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, les grandes voix, tout est mélangé. Quoi. Au bout d'un moment, ça se mélange. On devient l'artiste de la personne qu'on est. C'est pas très clair, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, ça...
Moi, je t'ai compris.
T'as compris,
chérie.
c'est très intelligent, donc on fait...
Ça sonne intelligent, ouais, c'est ça qui est bien avec les phrases.
C'est super.
Est-ce que la musique est plus présente chez vous qu'elle ne le fut dans la vie ou dans l'enfance de Marina? Est-ce que vous écoutiez de la musique régulièrement à la maison?
J'ai pas le souvenir que mes parents écoutaient de la musique. Moi, j'en ai écouté.
Vous, oui, je vous ai vu arriver avec un casque, là, en tout cas.
J'aime bien. Oui, il y a des moments où j'aime bien ça. Mais je n'aime pas quand ça me... J'aime pas être... C'est rare, le casque, en fait. Là, parce que je suis venu en voiture, enfin, ça n'a aucun intérêt, mais j'aime pas...
T'es passé par où ?
Mais j'aime pas être... Non, par exemple, ça m'angoisserait.
Vous avez un avis sur la fermeture des voies sur berge ?
Vous avez
t'es parisien, en le même.
Vous avez le plaque père, en plus, hein, pour circuler aujourd'hui.
C'est alterné aujourd'hui ?
Là, c'est en père, ouais.
Ah, je sais pas. Ah, bah, il est en père. On parle tellement peu d'écologie pendant cette campagne que... je sais plus où on en est. Je n'aime pas m'isoler, j'aime pas quand la musique me
coupe du monde.
J'aime pas marcher dans la rue en écoutant de la musique, ça m'angoisse. Par contre, j'aime bien chez moi ou dans un endroit clos m'isoler.
Si je peux me permettre, conduire en voiture avec un casque, c'est pas très
bien. On m'a conduit. On m'a conduit.
D'accord.
Non, j'étais en VTC.
Dans ces années-là, en 2008, vous écrivez et vous jouez votre one-man show, Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, produit par Dominique Farrugia. Est-ce que ce sont les années où vous vous êtes rencontrés ou vous connaissiez déjà depuis longtemps?
Non, on se connaissait depuis le cours de théâtre déjà. Ça faisait, en 2008, ça faisait longtemps qu'on se connaissait déjà.
Ouais. D'accord. Papa ou Maman 2, le film sort demain. Nous allons...
Ah, vous parlez de Dominique ou de Marina?
Je parlais de Dominique.
Ah pardon, Dominique, je l'ai rencontré au moment du One Man Show. Je cherchais un producteur pour mon One Man Show et il a eu la bonne idée de le produire. La bonne idée pour moi.
J'ai gardé avec moi Marina pour traduire en français mes questions mal formulées.
Non, c'est Laurent qui a un problème.
C'est français, la critique.
Oui, j'ai une capacité intellectuelle qui est très limitée.
Nouridine Manzora, merci d'être notre invitée. Nouridine, vous êtes pédiatre, psychiatre, thérapeute familiale. Vous exercez dans un foyer de l'enfance du Val-de-Marne et vous allez publier en janvier prochain, c'est ça, un ouvrage qui s'appelle L'art d'être des parents séparés. Alors là, si ça colle pas avec Papa ou Maman 2, vraiment. Est-ce que c'est vraiment un art, justement? Est-ce qu'il faut bien organiser son divorce?
Tout à fait, absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a en commun de traiter le même sujet, vous, sur le plan de la comédie, que j'ai eu l'occasion de voir ce week-end et qui est superbe à voir. Mais c'est vrai que... j'ai traité les choses de la même façon, mais d'une façon un peu plus entre guillemets sérieuse
et presque médical, un tout petit peu psychologique.
Il y a du psychologique, voilà. Il y a du social, ce n'est pas que médical, c'est tout le monde peut le lire, hein, c'est tout public.
Alors pour en revenir à l'humeur tout à l'heure de Frédéric Sigrist, est-ce que on ne divorce pas trop facilement parce que maintenant on en a le droit et au premier problème, au premier clash ou à la première tête dévissée de papa sur une jolie fille ou de maman sur un beau gosse, on se dit, allez, c'est le démon de midi, on va foutre en l'air la famille et se séparer parce que maintenant on peut et c'est facile. Voilà.
Alors, moi je pense qu'autrefois, le mariage c'était c'était un sacerdoce.
C'est une question. Et que l'amour venait après. Que je suis fou. C'est une question.
Excusez-moi, je vous interromps.
Oui, je disais que là où ça change, justement pour un petit peu étayer votre...
C'est une question aussi, hein, c'est pas une opinion.
Tout à fait.
Donc,
autrefois, l'amour, c'était vraiment un sacerdoce. Du moins, le couple, c'était un sacerdoce. L'amour venait après ou pas. Mais nous, actuellement, dans le couple, il y a quand même des attentes qui sont très fortes. On veut l'amour, beauté, argent, etc. La barque est chargée.
La base.
Et voilà. Donc, du coup, il y a tellement d'attentes que la moindre frustration...
Le moindre accroc fait qu'on ne sait pas. Marina vous fait signe que je suis fou en disant ça?
Parce qu'on crève sous la tyrannie du couple qui dure, de l'amour qui dure, de la famille, tout ça. Je pense qu'on s'auto-étouffe dans des schémas séculaires, qu'on se traîne comme des valoches, et que je ne crois pas connaître un couple avec enfant qui se sépare à la première historiette venue. C'est très compliqué de vivre ensemble, c'est très compliqué de se séparer.
Je dis pas le contraire, je trouve que on va de plus en plus vite vers les séparations. Je vois des couples autour de moi, c'est où on se dit...
Pourquoi ce serait pas juste un retour de la liberté et de l'individualité? Pourquoi on serait pas en train de foutre en l'air un
monde? Ça, le retour d'individualité, oui, ça je confirme.
Mais c'est pas forcément négatif quand il y a des amours. Pourquoi rester s'il n'y a plus d'amour?
Mais on peut aussi vivre une passion amoureuse sans avoir envie de se séparer de la personne avec qui on vit.
Et surtout, une séparation n'est pas forcément quelque chose de malheureux.
Donc la question à Noureddine, c'est est-ce qu'on était plus fort avant ou est-ce qu'on est plus faible aujourd'hui?
Ouais. Alors oui, votre question est un petit peu complexe dans le sens où c'est pas une question d'être fort ou pas fort. C'est vrai qu'il y a une forme de liberté. Vous parlez d'individualisme. C'est vrai qu'on est dans une société individualiste. Plus on a envie de faire des choses tout seul, c'est quelque part un peu incompatible par moment avec la vie de couple. Et c'est dans ce sens-là que parfois, dès qu'il y a eu un accroc, on peut avoir plus facilement. Autrefois, c'était difficile de se divorcer. D'abord parce qu'il y avait le poids de la religion qui a pris du recul. Hein, on se mariait quand
même.
Ça
va revenir.
Et puis parce que c'était plus difficile aussi pour une femme de quitter le foyer quand elle ne travaillait pas,
tout n'était pas tout à fait. Donc vous abordez la deuxième question qui est justement l'autonomie des femmes. Maintenant elles travaillent, elles sont libres et donc elles peuvent décider ce qu'elles ne pouvaient pas autrefois faire.
Mais moi il me semble que ce sont des acquis, pardon, de...
Oui mais ça mouffait moins à l'époque quand même.
Heureusement que c'est une liberté, et tant mieux. Je veux dire, autrefois, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier.
Oui. Ou elles ne pouvaient pas voter. Ni le droit de vote, ni le droit de se balader en pantalon dans Paris.
Ou travailler sans demander l'autorisation de monsieur.
C'est ça.
Il y avait des valeurs à l'époque.
Le plus dur, c'est de se séparer, et évidemment, et d'organiser cette séparation. Alors, dans le film, vous l'avez dit, c'est fait avec talent et avec brio et avec humour. Organiser une séparation, les histoires de garde partagée, de qui à quoi, de quel rythme, des vacances, et Noël, ça se passe comment? Tu passes la nuit là, le matin là. Enfin bref, ça c'est chacun sa solution ou il y a une solution magique?
Alors, il n'y a pas de solution. Chacun bien sûr trouve la sienne.
L'idéal, c'est le veuvage.
le meurtre, l'assassinat.
Oui, vous n'aurez aucun problème.
Moins de problème.
Alors, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de stéréotype. Chacun essaie de trouver la solution qui lui convient. Ouais. Il est certain que ce qu'on souligne d'ailleurs dans le livre, justement, c'est un petit peu d'organiser, de rappeler les choses essentielles pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'on peut divorcer, mais on reste parents de ses enfants.
Ah bon?
quand
un couple reste ensemble pour les enfants, pour le bien des enfants, pour l'équilibre des enfants.
C'est pas vrai, c'est pour les impôts.
Bonne idée, mauvaise idée, les enfants ressentiront que...
Oui, exactement. Donc, vous avez répondu à la question. Bien sûr que les enfants ressentent quand il y a un malaise entre leurs parents. Et que parfois, il y a des conflits quand même ouverts, les enfants assistent à cela, et c'est pas une bonne chose non plus. Alors vous me dire, la séparation, c'est vrai que c'est une situation ultime pour les enfants, mais malheureusement, dans certains cas, la séparation, il y a des enfants qui disent « Ouf !» Ça va se terminer, hélas. Bon, il y a une minorité, mais c'est des choses qui existent.
Et à l'inverse, dans le film avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, Papa ou Maman 2, les enfants se mêlent de la vie affective de leurs parents.
Bien sûr, ils deviennent des parents de leurs parents qui sont des ados.
Alors là, c'est un ressort comique, mais est-ce que c'est aussi un phénomène qui existe réellement, où les enfants essayent de rabibocher?
Bien sûr, ils essayent de rabibocher en se mettant même parfois dans des situations ou de se mettre en difficulté même à l'école ou de faire ce qu'il ne faut pas à l'école pour que l'école ou le collège rappelle les deux parents ensemble et donc les enfants sont ravis de cela. Moi, je ne connais pas d'enfant qui n'a pas une seule envie, c'est de remettre ses parents ensemble. Tous les enfants, en dehors de ceux qui ont vraiment souffert des choses pas très sympas, la plupart en une seule envie, c'est remettre les parents.
Mais parce qu'il faut rappeler à cet enfant qu'il est l'enfant de l'amour, même si cet amour après n'a pas duré.
Mais il peut être aussi de... l'enfant de l'alcool. Alors... Arrête avec tes gros mots. Là. Des fois, t'es bourré, t'es pas où.
Et alors, autre
vous pourriez écrire papa ou maman 3 en vrai.
Autre question posée dans le film avec la présence de Sarah Giraudot et de Jonathan Cohen, c'est l'arrivée de l'autre, du nouveau conjoint.
Oui, donc la famille recomposée.
Voilà, comment gérer ça ?
Voilà, écoutez, ça se gère. Il faut dire une chose, c'est que bon, quand même, les enfants s'en sortent d'une certaine façon.
Je dis ça parce que je suis quand j'entends le ton de la voix, je rentends mon doux et tendre papa. C'est-à-dire, il y a un côté très oriental avec ça se gère.
Oui.
Inch'Allah, on va s'organiser.
Voilà. Tu veux dire, Inch'Allah, on va laisser faire et puis on va se débrouiller.
Non, mais c'est ça. Non, mais sincèrement.
Pardon,
c'était très affectif.
Oui,
c'était très affectif.
On est un peu majoritaire.
Affectueux. Si on allait boire un café, c'est un service public. Hein.
Je vais boire un café, les blancs.
Excusez-moi. Oui, pardon. Alors, pour revenir à cette question, comment gérer
les nouveaux conjoints.
Vous savez, le juge, quand les parents n'arrivent pas, c'est le juge qui décide.
Non, mais le juge ne peut pas décider comment ça va se passer avec la nouvelle fiancée du papa séparé.
Non, ça c'est certain. Voilà. Mais par rapport. Parce qu'on voit dans le film, c'est un peu le fiasco. Hein. Un coup, les enfants sont chez l'un, ils ne savent pas quel jour il faut qu'ils soient chez eux, etc. C'est vraiment.
C'est le fiasco.
Le film ne l'est pas, mais la situation l'est.
Oui, c'est ça.
Voilà. Les parents à en s'organiser pour le partage des enfants. Parfois, quand ils sont dans une situation de conflit, ça ne peut pas passer. C'est pour ça que le dialogue est nécessaire. Si on ne peut pas se parler...
Il faut peut-être coucher avec le juge.
Aux affaires familiales. Dans le film, la juge, bon, bref, mais...
Vous aviez...
Mais est-ce qu'il faut présenter les nouveaux conjoints rapidement aux enfants ou au contraire ne le faire que quand on est sûr de cette nouvelle liaison ?
Oui, écoutez, il n'y a pas de recette. Je pense que les parents sentent quand les enfants sont prêts à faire cette démarche-là. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il faut le faire tôt ou tard. Les parents savent exactement le moment propice pour...
Et si les enfants surprennent les parents ?
Alors, dans quelle situation ?
Entre eux ou avec la maîtresse,
écoutez, alors là, je crois que c'est difficile de mentir aux enfants. Ils ont des antennes, ils savent tout. Ils comprennent, hein, surtout pour des pré-ados ou des ados, ils comprennent très bien qu'est-ce que...
Alors, tout à l'heure, on disait, et peut-être tant mieux en effet pour la liberté individuelle de chacun, que l'on peut se séparer, on peut divorcer. Et
heureusement, monsieur Nagui.
On ne regardera pas d'un sale œil qui la maman célibataire, qui le papa célibataire, mais est-ce qu'à l'inverse, étant donné la crise économique, on se sépare moins parce que justement, il va y avoir deux appartements de loyer à payer, il va y avoir.
Vous touchez un point très sensible. Le divorce appauvrit, la séparation appauvrit, parce que chacun doit trouver un appartement, on va revendre la maison ou l'appartement qu'on a eu, etc.
Donc, ou les enfants.
Ça appauvrit, et puis bien sûr, les conséquences des enfants hein, qui disent « Pourquoi tu ne m'achètes plus ça avant que tu me l'achetais ?» ou « Je vais vivre avec papa parce que lui pourra m'acheter la
console. » J'aurais dit, les enfants, au contraire, ils ont deux Noëls, quoi. Ils ont Noël chez papa, ils ont Noël chez maman.
Certes.
Ça, c'est
dans certaines situations,
bien,
des situations financières.
C'est une réflexion de millionnaire.
Moi, je parlais du loyer.
Mais ils ont chacun leur chambre.
Un Samsung, un iPhone.
Noël à Maurice et Noël aussi cher.
Chez les pauvres.
Justement, non, je posais la question de la séparation et du problème, simplement, de l'appartement et du loyer. Il y a même des parents, des papas divorcés qui se mettent en colocation pour pouvoir... continuer de vivre.
Et ce qui est dramatique actuellement, que je vois plus récemment, c'est que le couple se sépare avec les enfants, mais reste sous le même toit.
Et
c'est des situations catastrophiques.
De plus en plus fréquentes.
Et oui, de plus en plus fréquentes, parce que quand même on traverse des situations actuellement où le loyer est cher et qu'on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, partir.
L'art d'être des parents séparés, c'est co-signé, pardon, je n'ai pas cité Colette Barou-Chabanol, avec qui vous avez fait ce livre.
Co-auteur.
Voilà. Et le docteur Noureddin Marine Benzora qui est notre invitée. C'est chez Albin Michel. Ça ne sortira que le 5 janvier.
Et parce ça
que
je sens qu'il y a,
il y a plein de gens qui veulent déjà l'acheter.
Marina, regarde.
Tu le veux déjà
que... Ça m'intéresse. Je voudrais regarder.
Très bien.
C'est pour un ami.
Ça il est dédicacé à Eric. Merci beaucoup.
Merci, docteur. Merci à tous.
Là, on le voit bien avec Papa ou Maman 2, Daniel Morin, que oui, souvent dans un couple, il est bien plus difficile de se séparer que l'on peut l'imaginer. Avec toutes les questions que.
Oh, mais merde à la fin, c'est pas vrai ça. Vous ne vous lasserez jamais d'être absolument génial dans vos réflexions quotidiennes, monsieur Guy. Merde, chaque jour à la même heure, vous me mettez sur le cul. Vous êtes un maître, vous êtes un sniper de l'analyse, pardon. Même si aujourd'hui on peut le dire, vous visez à côté, mon pauvre garçon. Car non, monsieur Guy. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui plaquez plus de fiancés chaque été qu'un international de rugby ne plaque d'ailier tout au long de sa carrière, plaquer son conjoint ou sa conjointe, rien de plus facile. Je me souviens encore du jour où j'ai quitté mon ex. C'était après une nuit pourtant merveilleuse. Nos ébats furent si intenses que le voile nuageux qui couvrait Paris ce soir-là se retira. Déchiré qu'il fût par l'intensité des cris que ma fiancée et moi poussions, telles deux bêtes prises dans les convulsions de l'amour qui fait du bien, tellement qui fait du mal. Les étoiles scintillaient comme jamais, puis à la fin de la saillie, la lune en personne me fit un clin d'œil comme pour me dire... Bien joué, mec. Bref, elle était heureuse, la gourgandine qui partageait ma couche. Elle était heureuse, mais c'était trop facile. Du coup, en revenant de la cuisine, la fierté au torse et la bière à la main, je lui ai dit sans moufter, écoute-moi, pupuce, ce que je vais te dire va te paraître insensé, voire cruel, dégueulasse et barbare. Mais c'était notre dernière nuit ensemble. Demain, je te rends ta liberté pour mieux reprendre ma croisade érotique. Eh bien, ce geste, je le fis sans aucun mal. Pour moi, la séparation, ce n'est pas un drame, c'est un pari vers l'audace, vers l'inconnu, vers tous les secrets, les mystères et les promesses qu'elle tient du bout de ses doigts hésitants. Comme quoi, monsieur Guy, ce n'est pas vraiment difficile de se séparer de quelqu'un. Celui qui souffre, c'est celui qui est largué. Alors oui, c'est sûr, sa peine nous attriste, mais au final, comme on ne la voit plus, cette personne, on s'en fout. Voilà, monsieur Guy, démonstration est faite. Une fois de plus, vous avez dit...
N'importe quoi. Merci.
Merci Laetitia Gaillet, elle revient vous informer toute l'après-midi à 13h, le journal de Bruno Duvic. À tout à l'heure. C'est la bande originale avec Leïla Kadomboudadi, Tom Villa, Frédéric Siglis, Daniel Morin et Charles Ornac,
Bruno
Clavier et nos invités Marina Foïs et Laurent.
De la comédie française.
C'est vrai,
pensionnaire.
Arrêtez avec ça.
Mais non, mais vous l'êtes, assumons.
C'est obligatoire.
Hein. Bah, j'assume.
Au même titre d'ailleurs que.
Sur scène en ce moment dans Roméo et Juliette, dans le rôle de Benvolio, mise en scène par Eric Ruff, jusqu'au 1er février 2017.
Absolument. Ah, il a appelé
et sans lire ses fiches.
Bravo, les fiches. Il a appelé pendant.
Elle connaît bien les programmes de théâtre à Paris.
Et comment elle se fait? Je ne l'ai pas entendu suffisamment.
Elle va bien.
À l'affiche donc de Papa ou Maman de demain, il y a également Nicole Garcia, Michel Vuillermoz de l'Académie française.
De la comédie. Pas encore.
Parce que l'académie, c'est autre chose.
De la comédie française. Anne Leny, Jonathan Cohen, Sarah Giraudot, Judith Elzen, Michael Abitboul, et puis les enfants, Achille Potier, Anna Lemarchand, Alexandre Desrousseaux, Louise et Alice Sain, ce sont les bébés qui interprètent le rôle de Charlotte, et puis Marina et Laurent qui sont nos invités pour ce film qui est, sincèrement, j'ai vu deux, trois annonces ou des coupures de presse disant deux fois mieux, deux fois plus drôle, déclinant le côté c'est le numéro 2. Vous êtes posé la question d'ailleurs de garder ce Papa ou Maman 2 et de pas trouver un autre...
Nous, pour être très honnête, on voulait autre chose. Le premier c'était Papa ou Maman parce que les enfants ont poussé nos enfants à devoir choisir entre leur père ou leur mère.
C'était le pitch, ouais, voilà. C'est ça.
Alors
le
que
truc
là,
improbable.
Voilà, le 2 c'était c'est plus la réunion entre les deux personnages qu'on
papa
a un peu forcé.
Maman.
Non, ça a été évoqué.
Papa contre Maman.
Ça c'est possible aussi. On pensait, j'ai milité pour Papa et Maman, qui correspond plus au...
La manif pour tous.
Moi, je comprends
on
toujours pas la manif pour tous.
À la France dans laquelle on vit.
Il devrait manifester contre le divorce, au lieu de manifester contre des gens qui veulent se marier. puisqu'ils veulent à tout prix protéger enfin, la
devrait,
famille.
Ils devraient surtout rester chez eux.
Oui, rester à la maison. Puisque la famille, c'est important, rester à la maison.
Deux papas, deux mamans.
C'est voilà. Ça. Ah oui, c'est ça un peu. Oui, ah, c'est plutôt ça, c'est, que papa ou maman. Deux,
ça trois.
Ça aurait été deux papas,
des mamans.
Deux papas à la partouze.
Non, pas vraiment. Mais en tout cas, pour donner le point de
départ. La partouze intrafamiliale.
La meilleure. La seule qui vaille. La seule qui vaille. Anagui, hein.
Vous savez, vous êtes à l'antenne là.
Oui, Thomas. Ah,
oui, elle est rouge.
Donc, papa ou maman 2, le point de départ étant que, en effet, ils sont séparés, en effet, ils sont divorcés, mais pour simplifier la garde et l'organisation de cette garde, ils habitent l'un en face de l'autre dans des maisons pratiquement identiques, avec des chiens pratiquement identiques. Jean-Luc
et Jean-Pierre.
C'est ça. Des labradors à poils longs, des golden.
Golden Retriever, moi j'aurais dit.
T'as dit golden?
Ouais, moi aussi j'aurais dit ça, parce qu'en l'occurrence, c'est leur race.
Ah. Arrive quand même une nouvelle amoureuse dans la vie de Laurent Lafitte, jouée par Sarah Giraudeau. Arrive un nouvel amant dans la vie de Marina Foïs, jouée par Jonathan Cohen. Et puis une scène où tout démarre, c'est-à-dire la rencontre faite avec les deux nouveaux amours. Sauf que Laurent Lafitte a porté pour l'occasion un costume trois pièces en laine qui fait qu'il est dégouline de transpiration. Et que évidemment, le nouvel amant de Marina, c'est le mec parfait, il est beau, il est drôle, les enfants l'aiment, il est riche.
Les enfants l'aiment.
Wow. Les enfants ne le connaissent pas.
Ils ne le connaissent pas encore au moment du dîner. Il est caché.
Je parlais de la scène sur la plage.
Sur le bateau.
C'est
un cauchemar.
Heureusement qu'on est là.
Bravo.
Mais non, mais l'après scène sur le bateau, excuse-moi, les enfants sortent, ils sont saoulés après.
On a spoilé deux fois.
Oui, deux fois. Voilà.
On divulgage. Bref, on spoil.
C'est carnet de campagne, Philippe Bertrand. C'est suivant.
C'est extrêmement drôle, et là, on est d'accord, il faut le dire. Vraiment, il faut aller le voir.
C'est vraiment très très drôle. Ouais. Et
c'est intelligent.
Oui, et c'est pas facile de s'attaquer à un deuxième opus et de réussir ça et de se dire qu'on tire pas à la ligne et qu'on s'ennuie pas. Donc ça, vraiment, bravo.
Merci. Une réussite, c'est parfait. Ouais. Et ça sort demain au cinéma. Nous passons de la perfection à Daniel Morin. N'ayez pas peur, c'est maintenant.
En toute logique. Je suis d'humeur maussade et triste, monsieur Guy.
Quoi encore?
Oui, hier encore, j'avais la patate, la niaque. Pouvez-vous rapprocher du micro quand vous me parlez, monsieur Guy? On entend rien du tout. La pêche et la grinta. Mais aujourd'hui, je suis déprimé. Tout d'abord parce qu'on vient de l'apprendre. La mort de Monique Pifot. Monique Pifot, c'était la patronne de William Sorin, la bouffe en boîte. Eh bien, la Monique a légué sa fortune à Gaëtan, son caniche. 220 millions d'euros.
Putain. C'est une vraie info.
Ouais, c'est une vraie info.
Alors, si tu m'écoutes, Gaëtan, sache que je veux bien t'épouser. Oui, tu as entendu, je suis prêt à devenir ta chienne. Oui. Je sais, ça peut choquer, amis auditeurs, mais croyez-moi...
T'es vraiment une merde, toi.
C'est un homme qui est en train de se livrer, là.
Vous êtes mon maître, Nagui. Si vous aviez vu la tête de certaines de mes ex, vous trouveriez que, finalement, Gaëtan le caniche, c'est presque un progrès dans mon palmarès amoureux. J'attends ton appel, Gaëtan. Autre sujet de ma petite humeur maussade du jour. Selon le baromètre annuel de la Fondation de France, 5 millions de Français se sentent en situation d'isolement. Ils ne voient pratiquement personne, personne ne leur parle, ils se sentent abandonnés, exclus, inutiles, un peu comme des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais je vous en prie, les amis, point de résignation, je vous en conjure, il existe des solutions. Je ne sais pas, moi, si tiens, par exemple, devenez joyeux. Quand on est joyeux, on n'est jamais seul. Les gens viennent naturellement vers vous parce que vous dégagez quelque chose de positif. Dans la rue, dites bonjour aux passants, dans les transports en commun, dites bonne journée aux autres voyageurs. En fin d'après-midi, au lieu de regarder Plus belle la vie, qui ne rend la vie plus belle que dans le titre, regardez plutôt Nagui sur France 2. Nagui, c'est tellement de joie et de bonheur. Ça devient contagieux et ça donne envie d'ouvrir sa fenêtre et de crier « Faites du bruit !» En même temps, trop de joie, ça énerve les autres. La joie, c'est bourgeois. Non, j'ai une meilleure idée. Pour vous, qui vous sentez isolé, mais oui, devenez délinquant. Oui, délinquant. Quand on est délinquant, on a plein d'amis, on vole des trucs dans les magasins, c'est excitant, on se bastonne avec la police, c'est vivifiant. On n'est jamais tranquille, mais ça met du sel dans la vie. Et ça, c'est un bon remède à la mélancolie et à l'impression d'être seul, oublié de tous. En même temps, c'est pas une solution non plus. Délinquant, c'est cool, mais c'est dangereux. Un jour, tu dis comme ça dans la rue, « Eh, l'autre là-bas, j'aime pas sa gueule, je vais lui péter. » Et vous n'avez pas reconnu Teddy Riner. Ah oui. Vous finissez seul à l'hôpital avec une fracture à chaque os. Bonjour l'isolement. Ah non, mais oui, je sais. Ah, pour lutter contre l'isolement, il y a une solution simple. Mais oui, devenez alcoolique. Mais oui, bien sûr, grâce à l'alcool, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Dans la rue, une fois bourré, vous irez spontanément parler à tout le monde. Personne ne vous répondra, mais c'est pas grave, l'important c'est d'initier le dialogue, de mettre fin à la spirale infernale qu'est l'absence de communication. Même chez vous, vous vous sentirez moins seul grâce à l'alcool. Ah là 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 là, bien des faits, vous pourrez facilement croire que le mec que vous croisez dans la glace est un autre avec qui vous pourrez dialoguer et qui à coup sûr sera d'accord avec vous, puisque c'est vous. Eh oui, en même temps l'alcool, c'est pas la solution idéale. Regardez Frédéric Sylvestre. Non mais oui, bon sang, bien sûr. Oh là là, où avais-je la tête? Je sais comment lutter contre l'isolement. Pour ça, il faut tout simplement rentrer en contact, établir des relations avec d'autres personnes qui se sentent en phase d'isolement. En rencontrant des gens qui souffrent comme toi, tu ne seras plus jamais seul. Regroupe-toi avec des gens qui se sentent comme toi, exclus, mal aimés, abandonnés, inutiles. Deviens socialiste! À demain.
Merci Daniel Morin.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Dans cette bande originale avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, vous vouliez dire quelque chose, Marina, sur l'alcoolique non voulait...
Ah oui. Bah, c'est une solution. Je n'en vois pas d'autre. Voilà. J'ai été tentée par devenir joyeux et j'ai bien vu que ça tenait pas la route.
Voici le brouillon de culture pour les sortir de la promo de Papa ou Maman 2 qui sort demain.
Eh oui, Marina, Laurent, je vous sors de la promo un petit bol d'air histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Notre brouillon de culture, on commence par un son pour vous, Marina.
Je ne peux pas supporter sur scène quand... Donc, par exemple, il y a deux personnes qui bougent parallèlement. Je trouve que c'est pas bon. Parce que, alors, il y a deux qui peuvent commencer à bouger, puis il y en a un qui doit s'arrêter pour qu'il y ait des structures. Si les gens commencent à faire des mouvements n'importe quoi, ça tue l'effet qu'on veut avoir sur certaines choses.
Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Luc Bondy, le regretté Luc Bondy, parlant de la direction d'acteur. Luc qui vous a mis en scène dans Viol à l'Odéon. Et il paraît que votre rencontre a été particulière à tous les deux.
Oui, c'était un génie, une culture infinie dont il ne faisait pas étalage, extrêmement drôle. J'ai appris avec lui tellement et j'ai ri tellement. Je ne me remettrai pas qu'il soit plus là pour nous faire rire autant. Enfin bref, et faire d'ici beau spectacle. La rencontre, il m'a vu jouer dans la Tour de la Défense de Copy. Il est entré dans ma loge, il m'a trouvé quasi à poil. Enfin, je veux dire, il est comme ça. Il m'a dit, je veux que vous jouiez, tout ça. Oui, voilà. Il m'a donné rendez-vous le lendemain à Belleville. Dans un restaurant, j'y vais et il m'explique que donc il va monter Viol de Boto Strauss et qu'il me propose un rôle dedans. À ce moment-là, il se saisit d'une feuille blanche, vierge, et il prend son doigt. Et il écrit avec son doigt sur une feuille vierge. Il me dit, nous jouerons à l'Odéon Berthier du 7 septembre au 23 novembre. Et il me tend la feuille sur laquelle il n'y avait toujours rien d'écrit. Je me suis dit, d'accord. Moi, je connaissais ses spectacles, j'avais vu Terre étrangère, etc. Je voulais travailler avec lui. Mais là, j'ai dit, je suis obligée de travailler avec lui.
Et apparemment, vous lui avez dit même que vous ne compreniez pas la pièce.
Oui, après, j'ai lu Boto Strauss, qui est un grand auteur, mais abscon, il faut beaucoup de... Il faut quand même beaucoup de culture pour le comprendre à la première lecture. Ce n'était pas mon cas. Donc, je l'ai appelé très décomplexé. Je lui ai dit, voilà, monsieur Bondy, moi, je rêve de travailler avec lui, mais j'ai un problème. Je n'ai rien compris à la pièce. Il m'a dit, génial. Je déteste les acteurs qui discutent. Moi, je vais vous emmener au restaurant. On va manger. Je vais vous regarder. Et c'est comme ça que je vous dirigerai. Voilà. Après, c'était une...
Et vous a piqué vos clopes.
Nous nous sommes revus aux fleurs.
En fait, vous étiez plus malléable de ne pas avoir votre vision et interprétation de la pièce.
C'est-à-dire que Luc, il avait suffisamment de
vous diriger.
Pardon ?
C'était plus agréable pour lui de vous diriger sans que vous ayez compris cette pièce pour pouvoir faire ce qu'il voulait de vous.
C'était un peu une pause de répondre ça. C'est un trait d'humour et tout. Mais comme il l'expliquait, comme il était très intelligent et très cultivé, il pouvait laisser son cerveau de côté pour être aussi dans quelque chose de plus animal, de plus physique, de plus incarné.
Et puis surtout,
il avait une vision extrêmement large des choses. Moi, je riais. Il pouvait interrompre des répètes pour aller me raconter une blague juive. Dont il venait de se souvenir et qu'il avait oublié de me raconter. Donc, il était très fantasque comme ça. Mais n'empêche que c'était quelqu'un qui vous ouvrait les horizons. C'était toujours très intéressant de parler avec lui. La réponse n'était jamais là où on l'attendait. C'était vraiment quelqu'un qui avait une pensée libre, unique, large. Voilà. Et donc, après, nous nous sommes revus au Flore. On a discuté de la pièce. À l'époque, on pouvait encore fumer, je crois. Il m'a chouré mon paquet de clopes et il m'a envoyé un texto après en me disant « J'ai vos clopes, mais vous avez le rôle.
» Et quand est-ce qu'on vous revoit au théâtre, Marina Foïs? Parce que vous avez une carrière assez pointue. Quand on voit vraiment toute la liste des pièces dans lesquelles vous avez pu jouer, votre travail est quand même marqué beaucoup par Martial Difonzobo.
Oui.
C'est très pointu. Qu'est-ce que vous nous préparez?
J'attends que Martial et Romain qu'on trouve une pièce
Romain
et des
dates.
Romain Duris, pardon. Que, avec qui on a joué le démon.
De Lars Norén.
Mise en scène par... voilà. J'attends plein d'autres. Je suis prête à faire beaucoup d'autres choses. Mais ça a été une expérience tellement hors du commun, tous les trois, ce trouble-là, que j'espère bien qu'on va retrouver quelque chose à faire ensemble. Mais pour le moment, j'ai pas de projet, j'ai rien à vous annoncer.
On poursuit avec vous,
Ah si, pardon, vous pouvez annoncer le Périclès le Noir ou Gaspard va au mariage.
Ah oui, Périclès le Noir, le film de Stefano Mordini avec Scamarcio, qui est un film italien.
Et Gaspard va au mariage.
Gaspard va au mariage et aussi le film de Laurent Cantet, qui n'a pas encore de titre, que je viens de tourner. Mais ça, c'est au cinéma.
On poursuit avec vous, Laurent. Ça doit vous rappeler vos années londoniennes, puisque c'est le générique de Coronation Street.
Oh là là, bah alors attendez, on part. Alors Marine en parle de Luc Bondy et moi on parle de Coronation Street.
Ah non,
Street,
mais vous savez pas.
Alors attendez, mais c'est le plus bel la vie anglais, si mais, vous voulez, dont j'ai fait un épisode quand j'étais étudiant.
Mais de la comédie française. Mais de la comédie française.
Non, mais le problème c'est qu'il faut me laisser dérouler, Laurent. Faut me laisser.
Surtout pas. Je veux surtout pas vous laisser dérouler. Et sinon quoi d'autre?
Mais laissez-moi dérouler. Faites-moi un tantinet confiance. Donc Coronation Street, cette série anglaise que vous avez donc assimilée au plus bel la vie, assez mythique quand même, dans laquelle vous avez joué une fois en effet à vos débuts.
Comme Franck Dubosc.
Et pourquoi je fais ce parallèle avec Londres, c'est par rapport à votre formation d'acteur, puisque vous avez étudié à...
J'étais à la Guildford School of Acting. Oui, j'ai fait ma troisième année du conservatoire là-bas, pour travailler le plus le chant et la danse.
Voilà.
C'était un peu leur spécialité là-bas.
Et ça, c'était important pour vous d'aller voir un peu ailleurs pour approfondir, élargir l'apprentissage.
Oui, je trouvais que qu'au conservatoire, on travaillait pas assez le chant et la danse, et je sentais que j'en avais besoin. Donc voilà, je suis parti faire ma troisième année là-bas.
Mais on dit toujours que les acteurs américains, ils savent tout faire. Et bien Laurent Lafitte, il n'est pas américain, mais il chante très très bien, il danse très très bien. Mais c'est vrai.
Et bien voilà pourquoi j'en suis passée par Coronation Street. Vous voyez, on en arrive là. Donc danse, chant, en effet. Et ça doit conduire à des envies assez protéiformes pour l'avenir.
C'est
mon adjectif préféré.
Si je me gueule à chaque fois.
Voilà, chaque fois que je le prononce.
Il doit être dur à Motus. P-R-O-T.
P-R-O-T-E-I-R,
c'est combien de lettres, il faut 9.
Non, mais dans les envies de spectacle un peu comme ça, total.
Oui, moi j'aime beaucoup de choses. J'ai en tant que spectateur, j'ai des goûts vraiment très très. J'aime les belles choses, les choses bien faites, mais j'ai pas de chapelle, donc j'ai des envies très 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 larges.
Et les États-Unis, par exemple, puisque vous avez un anglais.
J'ai pas un fantasme par rapport au cinéma Hollywood, tout ça. Le cinéma hollywoodien qui m'a fait rêver n'existe plus trop. J'ai pas spécialement envie d'être suspendu à un câble devant un fond vert pendant 6 mois. Maintenant,
pas la peine d'aller jusqu'à là-bas, il y a des soirées organisées.
C'est vrai. Maintenant, il y a un cinéma indépendant américain qui est très fort et qui réussit un équilibre entre intelligence, pertinence, risque et en même temps accessibilité que j'aime beaucoup.
Genre les frères Cohen.
Les frères Cohen, Todd Solondz, James Gray, Woody Allen, il y en a plein. Paul Thomas Anderson, il y en a plein.
Oui.
Plein.
Et je finis par un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Je commence par vous, Laurent. Je vous offre Marcello Mastroianni.
Ah, génial.
Un livre de Jean Guilly.
Marina est jalouse.
Non, mais il va y avoir autre chose pour Marina. Aux éditions de La Martinière. C'est un très très beau livre avec une préface de Jacques Perrin.
Ça veut dire que c'est cher, vous avez compris. Hein,
non. J'ai compris, ça ne se dit pas.
C'est une face... Il y a 20 ans, en fait, Mastroianni nous quittait.
Non, 12 euros,
il était quand même l'emblème du cinéma italien. Ouais. Et donc, ce bouquin retrace toute sa carrière marquée par les plus grands cinéastes, Fellini, Visconti, Ettore Scola, et puis toutes les merveilleuses actrices actrices aux côtés desquelles il a pu jouer. Cardinal, Sophia Loren, Monica Vitti, bon, j'en passe. Donc il y a des photos, il y a des affiches de films, c'est très documenté.
Vous aimez, dire, oui, il y a une photo que je connais de Marcello et Catherine que j'adore, sur un bateau, trop belle. Et on a une passion commune, Laurent Lafitte et moi, qui est Chiara Mastroianni.
Ah, oui. Et ben voilà, vous êtes servi avec...
Ah oui, je viens de tourner avec elle, elle est extraordinaire, je lui fais un bisou d'ailleurs.
Et ben voilà, ça c'est pour vous, Laurent, ça vous fait plaisir, après ouais, Coronation
beaucoup,
Street.
Beaucoup, merci okay. beaucoup.
Et puis pour vous, Marina, vous avez évoqué la photographie tout à l'heure, je vous offre Mauvais Genre.
Ah, génial.
Les Travestis Lifschitz. De Sébastien Lifschitz, évidemment, il était à Arles cet été, dans le cadre des rencontres photographiques. Vous pouvez toujours voir l'exposition.
Oui, je sais pas,
j'ai un petit moment. J'ai des finales un peu compliquées.
Mais c'est parce que Sébastien Lifschitz, c'est un nom très compliqué.
C'est vrai qu'il est dur à dire.
C'est un réalisateur. Absolument. Il fait des fictions, mais il a fait aussi des documentaires qui sont géniaux, dont Les Invisibles, ouais, qui racontent l'histoire de l'homosexualité, en fait, avec des témoignages
hyper
absolument
touchant,
dingues, ouais, ultra touchants. Mmh. Son portrait de Bambi, également, qui est vachement bien. Mmh. Et il y a Thérèse, Lévy de Thérèse, là, qui vient de...
Recevoir voilà, la Queer Palm à Cannes, c'est Lévy de Thérèse. Donc ça, c'est voilà, sur son travail. Donc là, pour expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Sébastien Lifschitz, il a regroupé des photographies de travestis à travers un siècle. C'est des photographies amateurs. Si vous voulez, vous êtes à Paris, vous pouvez voir encore l'exposition qui est partie de Arles, qui est maintenant à côté de Beaubourg, à la Galerie du Jour d'Agnès B. Et c'est vraiment très très beau, très touchant. Et,
il y a une très belle photo de Daniel Morin dedans.
Il y a une très belle photo de Daniel Morin avec du rouge à lèvres.
Rouge à lièvre, voilà.
À la Denis Baupin. Ah voilà, on va dire ça comme ça.
Et puis,
c'est le travestissement au travers le dernier siècle. C'est pour vous.
Merci beaucoup.
Puisqu'on parle d'ouvrage, on n'ai aucun à vous offrir, si ce n'est vous encourager, vous qui nous écoutez, à vous replonger dans la rubrique à braque de Marcel Gottlieb, qui nous a malheureusement quitté dimanche et qui était juste un génie.
Génial.
Un génie et un amour. Et je pense à toute sa famille qui comme nous, le pleurait en ce moment. Papa ou maman de, ça sort demain au cinéma. On a des excuses à présenter avant de se quitter.
Désolé pour tous les enfants qui, après cette émission, vont être désemparés, d'être comparés à des packs d'eau plus ou moins potables. Écoutez les gosses, je vous rassure, hein, mon pack de bière qui me sert de fille s'en sort très très bien. Désolé pour tous les jeunes saints d'esprit qui nous écoutent. Et oui, Marina l'a expliqué, il faut être malin et pervers pour être comédien. Nagui, je sens qu'une nouvelle carrière s'offre peut-être à vous. Il vous reste juste à devenir malin. Désolé pour la femme de Patrick Cohen qui vient enfin de comprendre pourquoi le fidèle Castro du matin de France Inter allait faire ses courses rue des Martyrs le dimanche matin, alors qu'il en fout pas une le reste de la semaine, c'est bien connu. Tout ça,
et
c'est pour choper Marina Foïs.
Qui n'habite pas là.
C'est dans ce quartier.
Mais pas du tout dans ce quartier. Demain, Laurence Arnay et Alice Belaïdi seront nos invités. Merci mille fois et surtout bravo aussi pour tout le talent que vous avez et qui est concentré dans Papa ou Maman 2 qui sort demain au cinéma. Merci Marina Foïs.
Merci à vous.
Merci, merci Laurent Lafitte.
Merci beaucoup.
À bientôt. Voici les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour,
oui,
Philippe.
Salut.
Salut Philippe.
Émission protéiforme.
Oh, oui.
Y a un truc, ça fait 3 fois que je me fais piéger par l'affiche du film. Je reviens sur mes pas, je vois Marina, mais elle embrasse Cyril Hanouna, j'ai pas compris.
Oh
non.
Mais vous avez regardé l'affiche?
C'est oh non, vous regardez là.
D'accord.
Bonne émission,
salut
Philippe.
Les amis.
Et bonne vue.